suis venu aujourd'hui avec un engin un peu particulier, mais ça ne fait pas tout le bruit que j'escompterais. Parce que la dernière parole que dit Jésus, « Ouvre-toi », c'est comme le dernier tour de clé de tout un processus pour la guérison de ce sourd muet ou qui avait du mal à parler. Mais avant, il y a eu 4 autres tours de clé, si je puis dire. Alors du coup, je vous propose donc en 5 parties, cette fois-ci, de voir un peu ce processus, parce que ça peut peut-être nous aider nous-mêmes pour notre propre processus, pour nous ouvrir. C'est la parole qu'emploie Jésus, « Ouvre-toi ». Qui peut prétendre être pleinement ouvert ? Pour nous ouvrir ou pour accompagner quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir ? Alors, quel est le parcours ? Donc, 5 étapes pour ce parcours, 5 tours de clé, si je puis dire. La première chose que Jésus fait, c'est d'emmener... Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Alors, pourquoi est-ce que Jésus l'emmène à l'écart ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le but de Jésus, ce n'est pas de faire du spectacle, Et à la fin de ce passage d'évangile, il nous est dit, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un peu le secret messianique. Jésus ne veut pas qu'on se méprenne sur sa mission et qu'on s'arrête pas uniquement à la matérialité du miracle, mais qu'on aille un peu plus loin pour accueillir Jésus comme Messie, mais pas forcément... selon l'idée qu'ils avaient du Messie, mais aussi un Messie souffrant. Alors ça, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Jésus veut avoir une relation personnelle avec cet homme. Jésus n'instrumentalise jamais quelqu'un pour se faire de la publicité. Et si vous remarquez bien, au début de la rencontre, le sourd-muet est assez passif. Voilà ce qui est dit, des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Le sourd, a priori, il n'était pas paralysé, il pouvait venir tout seul vers Jésus. Mais c'est les gens qui l'amènent, qui font... Il aurait pu s'expliquer avec des gestes, même s'il n'était pas italien, il aurait pu quand même se faire comprendre. Donc, au début, on voit qu'il est assez passif. Jésus veut pas faire les choses sans nous. Il faut qu'il soit un peu acteur aussi. Et nous aussi, le premier pas, c'est d'être un peu acteur. Sinon, voilà, Jésus veut pas faire les choses sans nous. Et en même temps, s'il l'emmène à l'écart, je pense que Jésus veut lui permettre de se reconnecter, si je puis dire, à son intériorité, d'être vraiment lui-même. Indépendamment de sa relation avec les autres, loin de la foule, de se soustraire au regard des autres qui peut-être le paralysent aussi et qui parasitent la relation. Alors, comme je parle aux équipes Notre-Dame, c'est un premier, entre autres, mais ça vaut pour tout le monde. Donc, c'est un premier appel à l'oraison, parce que l'oraison... C'est un lieu, justement, où Jésus nous emmène à l'écart. Et dans l'oraison, Dieu travaille nos cœurs. Donc, c'est un lieu particulier où le bon Dieu veut travailler nos cœurs. Bon, ça, c'était le premier tour de clé. Deuxième tour de clé, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. C'est assez concret, quand même. Je sais pas si vous aimeriez que quelqu'un... vous touche la langue avec sa salive. Oh, surtout par les temps qui courent. Alors, Jésus ne nous invite pas forcément à reproduire matériellement exactement le geste qu'il a fait. Mais n'empêche qu'il y a une dimension tout à fait incarnée. Alors, quelquefois, il y a des gens qui se moquent des esprits forts, qui se moquent des gens qui touchent le rocher à Lourdes. Mais ça fait partie de l'incarnation. Jésus, c'est pas du spiritualisme un peu éthéré. Jésus s'est fait homme. Et c'est cette dimension très concrète qu'on retrouve dans les sacrements. Dans chaque sacrement, il y a vraiment une dimension concrète. On est vraiment la religion de l'incarnation. On n'est pas quelque chose, juste des mots comme ça, déconnectés de la réalité. Et ça comporte une dimension d'humilité. On aimerait peut-être avoir simplement une sagesse, une philosophie, mais c'est pas ça que Jésus vient nous donner. C'est quelque chose d'incarné. Et le lieu de l'incarnation, c'est aussi le lieu de l'humilité. Et vous savez, c'est une phrase qui revient à diverses reprises dans la parole de Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Alors cet aspect très concret, c'est aussi un appel à l'humilité, à la docilité. Vous vous rappelez peut-être aussi de ce général syrien, c'est au chapitre 5 du deuxième livre des Rois, qui est lépreux, et puis au début le prophète Élisée lui dit « va te baigner dans le Jourdain 7 fois ». Il dit « mais qu'est-ce qu'il me dit ? Pourquoi pas le faire chez moi ?» Et du coup il commence à raisonner, et puis il est un peu piqué dans son orgueil. « Bon, les fleuves de mon pays valent mieux que ce... » Et du coup, à peu de choses près, il serait reparti sans sa guérison. C'est ses serviteurs qui lui disent « mais il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, et là il te demande quelque chose de tout simple, plutôt agréable quand il fait chaud d'ailleurs, et tu le fais pas. » Et alors du coup, il se laisse convaincre et il se baigne et il est guéri. Mais voilà, cette dimension très incarnée qui est aussi une dimension d'humilité. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a un décalage entre la demande des gens et la réponse de Jésus. Les gens supplient Jésus de poser la main sur lui. Et c'est pas ce que fait Jésus. Jésus l'emmène à l'écart, lui met les doigts dans les oreilles, avec sa salive, il lui touche la langue. Autrement dit, quand on fait des demandes à Jésus, il faut le laisser libre des moyens. On n'a pas à lui dire « bon, opère de telle et telle manière » et puis voilà. Et tout ça, c'est ce domaine de l'incarnation et de l'humilité. Voilà. Et dans les sacrements, il y a une dimension d'humilité. Alors, il y en a, c'est plus visible que d'autres. Le sacrement de la confession, ben, il faut une certaine humilité pour aller dire ses péchés. Ça va pas forcément de soi. On préfère les dire en direct. Ça serait plus simple, en un sens. Mais voilà, c'est pas le moyen que Jésus nous a proposé. Voilà. Alors donc, premier tour de clé, il l'emmène à l'écart. Le deuxième tour de clé, c'est très concret, il touche les oreilles, il touche la langue, etc. Troisième tour de clé, alors là j'inverse un peu les deux, mais Jésus soupira. Ce mot revient à diverses reprises dans la parole de Dieu. On voit les gémissements aussi du peuple en Égypte et Dieu qui descend pour les délivrer. Ce soupir de Jésus indique aussi la compassion de Jésus. Jésus qui ne reste pas indifférent aux souffrances des personnes. C'est Saint Matthieu, à un autre endroit, qui dit « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » Mais en même temps, ce soupir, c'est un appel à se sourd-muet, à se rendre compte que Jésus n'est pas indifférent, à se laisser toucher par l'amour de Dieu. Saint Paul nous dit « L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. » Il y a une manière de se laisser toucher par cet amour de Jésus qui contribue à notre ouverture de cœur. Vous suivez toujours ? J'arrive au quatrième tour de clé. Les yeux levés au ciel. Alors ça va avec le fait de soupirer. Les yeux levés au ciel, il soupira. Mais les yeux levés au ciel, ça nous parle de la prière de Jésus à son Père. C'est une expression qui revient à diverses reprises aussi dans la parole de Dieu. On le voit dans l'Exode que je mentionnais où du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Ou alors dans le psaume 122 que vous connaissez, « Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Ces yeux levés, c'est accepter d'arrêter de ne chercher que des solutions humaines. C'est d'arrêter d'avoir un regard uniquement horizontal. Alors la formule complète dans l'évangile, c'est donc les yeux levés au ciel, Jésus soupira. Et Benoît XVI, le pape Benoît XVI avait commenté cette parole en disant, en insistant sur le lien étroit entre la compassion pour les hommes et la prière au Père. Alors je vais vous lire quelques lignes de Benoît XVI. Jésus, au moment d'opérer la guérison, cherche directement sa relation avec le Père. Le récit dit en effet que les yeux levés au ciel, il soupira. L'attention au malade, le soin de Jésus pour lui, sont liés à une profonde attitude de prière adressée à Dieu. En Jésus, à travers sa personne, est présente l'action guérissante et bénéfique de Dieu. Dans l'action guérissante de Jésus, la prière a un rôle évident à travers son regard élevé vers le ciel. La force qui a guéri le sourd-muet est certainement provoquée par la compassion pour lui, mais elle provient du recours au Père. Ces deux relations se rencontrent. La relation humaine de compassion avec l'homme qui entre dans la relation avec Dieu et devient ainsi guérison. C'est assez concret pour nous-mêmes. On peut être très sensible aux détresses des personnes, mais ça suffit pas d'être sensible aux détresses des personnes. Encore faut-il lever les yeux. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut ? Pas forcément grand-chose. Alors, la médecine, elle peut faire et elle doit faire tout ce qu'elle peut, mais ça suffit pas. Voilà, alors, à la fois, les yeux levés au ciel, Jésus soupira. Et j'arrive au cinquième tour de clé, dernier tour de clé. Jésus lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Donc, c'est des paroles qu'on peut redire encore pendant le baptême, que le prêtre peut renouveler le geste. Mais là encore, on voit que Jésus ne force pas la porte. Il déblaye, pour ainsi dire, tout ce qui est devant la porte. Il a tourné les premiers tours de clé. Mais à un certain moment, c'est à la personne aussi d'ouvrir la porte. Alors bien sûr, sans la grâce de Dieu, elle ne pourrait pas. Mais en même temps, Dieu ne veut pas se substituer à nous. Et ce mot, donc il était sourd et muet, et c'est un seul mot pour les... Parce que peut-être on a du mal soit pour recevoir, pour donner, et Jésus nous appelle à nous ouvrir pour que vraiment dans une relation, il faut que ça circule, qu'il y ait un peu les deux mouvements. Vous notez aussi qu'il y a une parole, et ça nous parle encore des sacrements, les sacrements qui comportent un geste, quelque chose de concret, et qui comportent une parole d'autorité. Et alors, c'est à ce moment-là que la grâce est donnée. La description de cette guérison est assez évocatrice. Les oreilles s'ouvrent. La langue se délie. L'oreille qui s'ouvre, c'est une oreille qui... C'est signe de docilité. Vous vous rappelez du passage d'Isaïe, peut-être au chapitre 50. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Il y a peut-être des choses que nous ne sommes pas prêts à entendre, que nous n'avons pas envie d'entendre. Et alors tous, alors ce sera... une première partie de ma conclusion, tous nous sommes appelés justement à demander au Seigneur d'ouvrir nos oreilles. Donc les oreilles s'ouvrent et la langue se délie. Ça veut dire que pour l'instant elle était comme liée, il y avait des liens qui inhibaient cette parole, peut-être par la peur des autres, de ce que pensent les autres, par le... la mésestime de soi, par enfin il peut y avoir, qui fait que qu'on se déprécie, qu'on ne se donne pas. Et là aussi, on peut demander, reprendre cette parole du psaume que l'Église met chaque matin sur nos lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Voilà, alors je vous laisse sans plus prolonger ces cinq tours de clé pour que nous puissions vraiment nous ouvrir, que nous puissions à la fois être pleinement réceptif à la parole de Dieu et que nous puissions proclamer la louange. Amen.